Bonsoir tout le monde, bon, Excellence, bonsoir tous mes amis, Madame la Présidente, mon cher Georges, quel plaisir d'être là ce soir et quel honneur pour moi de vous proposer ces quelques réflexions sur ce que j'ai pu comprendre de votre histoire, de notre histoire commune. Mais comme le Liban est au centre, finalement, d'une histoire extrêmement commune, je vais remonter très loin pour se souvenir qu'est le Liban, qu'est le Lebné. Vous voyez que cet arbre-là, cet arbre, ce pays du cèdre, est devenu tout d'un coup un arbre de la paix avec des feuilles d'olivier qui vont permettre une respiration sociale. Le Liban. Je vais faire une petite incursion en matière de sémantique, comme à mon habitude, et je vais essayer de vous décrire comment j'ai compris tout cela. Lebnan, c'est une racine sémitique qui veut dire blanc, en référence au lait et en référence sans doute au manteau neigeux du mont devenu éponyme, le mont Liban. Mais c'est aussi l'ouban, l'arbre à parfum des montagnes aux fleurs blanches à l'odeur d'encens, dont je crois que vous avez en arabe le fameux, le joli prénom de l'oubna, l'arbre à miel, prénom féminin. Remontons très loin. Le Liban remonte à la nuit des temps. Et dès l'épopée de Gilgamesh, roi légendaire d'Uruk, près de l'Irak actuel, eh bien, dans les tablettes de cette grande épopée, il est cité le Liban dans 3 des 12 tablettes. En particulier cette version ici de Ninive sur le déluge. Tiens, le déluge. On retrouve également à Tel Martik actuel, c'est Ebla, un grand site archéologique, les tablettes d'archives du palais royal, et là, le Liban est cité, et on est en moins de 2400, AD, Ante Domini, sur les tablettes des bibliothèques de ce fameux site archéologique. On va retrouver dans l'Ancien Testament le pays des cèdres, Canaan. Vous voyez à gauche la Bible de Gutenberg, la première époque avant le numérique, où on avait enfin pu vulgariser la Vulgate de Saint Jérôme, elle portait à ce moment-là bien son nom, vulgariser un texte important et qui a pu être divulgué dans tout le monde. 71 fois a été cité le Liban. Dans l'Ancien Testament, le terme est intéressant puisque c'est le terme de témoignage du grec diatiké qui veut dire un contrat, une convention. C'est pour ça qu'on parle de l'ancienne et de la nouvelle alliance au sens religieux. Mais on entend toujours parler de Canaan. Qu'est-ce que c'est que ce Canaan? Le pays du Canaan et le pays plus loin de la Phénicie. Là aussi, les alphabets du nord-ouest sémitique, hébreu, ugaritique et phénicien, retrouvent ce nom, c'est Kaneth, et ce qui veut dire simplement une idée de soleil couchant. Étonnant, puisque nous sommes en Orient. Donc c'était un Orient qui est bien occidental. Au final, le Liban porte bien définitivement son nom. Parce qu'on est toujours à l'Orient de quelque chose, là où le soleil se lève, Orientes. Et ce qui avait donné ce nom était sûrement plus à l'ouest, puisqu'ils étaient dans le Tigre et l'Euphrate. Et donc Canaan était bien l'Occident pour eux. Et dans la Genèse, Canaan, c'est le fils de Cham, c'est-à-dire le petit-fils de Noé. Voilà, c'est encore une autre histoire. Mais c'est intéressant de voir que ce nom a été repris dans la Genèse. On va remonter sur les cartes géopolitiques. Je suis à l'âge de bronze, moins 1200 ans. On est toujours en train de se dire, ces dates, l'âge de bronze, l'âge de fer, c'est vieux. Non, c'est hier. L'âge de fer, c'est Rome, moins 1800, c'est rien. C'est Carthage. Moins 1200, l'âge de bronze. Et vous voyez toutes les cités que nous avons tout à l'heure vues, avec, qui avaient nommé Canaan, toutes les cités réparties dans cet Moyen-Orient actuel. Et Moyen-Orient, pourquoi? Puisqu'il faut être à l'Occident de quelque chose et l'Orient de quelque chose. La ligne de partage, c'était la Grèce et l'Égypte. Quand on est à l'ouest de l'Égypte, on est occidentaux, et de la Grèce également, et orientaux de l'autre côté. Ce Liban que nous connaissons, ce Canaan, cette Phénicie, eh bien, dans le grand empire romain, vous voyez, il faisait tout le pourtour méditerranéen, il se situait complètement au lime est de l'empire. Anno Domini, j'ai dit tout à l'heure, une petite incursion pour se dire, mais d'où viennent ces mots, d'où viennent ces dates? Eh bien, ça a été une date qui a été définie en 525 par Denis le Petit, Dionysos Exiguus le Petit, parce que le pape de l'époque voulait qu'on puisse définir définitivement Pâques à une date correcte. Donc l'an 1 a été la naissance de Jésus-Christ, et après on a parlé après Jésus-Christ, after Christ, et puis après, pour éviter les problèmes religieux, on parle d'ère actuelle ou d'ère contemporaine. Mais c'est très récent. C'est pour ça qu'on parle de calendrier grégorien, du pape Grégoire XIII, qui, au XVIe siècle, est passé d'un calendrier lunaire à un calendrier solaire, et ce n'a été adopté par les États dits catholiques qu'en 1582, et l'adoption mondiale ne date que du siècle dernier. L'Empire romain d'Orient, l'Empire romain d'Occident, vous voyez qu'ils se sont séparés en 400 à peu près après Jésus-Christ, et donc c'est à ce moment-là que le Liban se retrouve dans un empire romain d'Orient qui est Constantinople et qui est Byzance. Phénicie. Phénicie, c'est un terme grec en fait, parce que les Grecs appelaient Phénicie le peuple de Canaan. Pourquoi ? Parce que phoines veut dire rouge sang, de la couleur des coquillages trouvés sur les plages de Canaan, et la maîtrise par ces personnes de Canaan du rouge pour les teintureries ont fait la fortune de cette côte. D'où le terme de Phoenix, de Phénicie, qu'on va retrouver après longtemps. Je passe les siècles, puisqu'on a terminé avec l'Empire d'Orient romain, l'Empire d'Occident, et tout d'un coup, prise de Constantinople, 1453, et va se développer entre le 14e siècle pardon, et le 17e siècle, le fameux Empire ottoman, Ottoman qui veut dire le serpent, de peuples qui sont venus de la Caspienne et qui progressivement, à partir de Bursa à Bourse, au niveau de Constantinople, ont pu complètement étendre leur empire. Et vous voyez toutes les dates à partir du 14e siècle jusqu'à l'apogée de cet empire dont le Liban faisait partie. Important à ce niveau-là, c'est les capitulations. Ce sont les capitulations signées, c'est les premières qui ont été signées, avec le sultan Suleiman le Magnifique, qui était donc le sultan de la Sublime Porte, Babri Ali, et il avait donné un statut à François Ier pour les Français qui avaient le droit de voyager, de commercer avec liberté de religion, et le consul de France avait liberté de juger les affaires entre Français sur le sol ottoman, gestion des successions des Français, et également police locale relative. Ces actes qui étaient signés sur plusieurs chapitres, s'appelaient les capitulations. Ce n'est pas l'Empire ottoman qui avait capitulé devant François Ier, c'est un autre terme, c'est simplement un élément à chapitre, un contrat. Et c'est à partir de cette date que la France est devenue traditionnellement la protectrice des chrétiens d'Orient. Phénicie, Liban, 1453, je disais, c'est la gestion ottomane de la Phénicie par des accords de dimitude, des accords de contrat avec les gens du livre, et donc de protection, d'imi en arabe, selon les communautés religieuses. Et à partir de 1841, on a continué sur la même idée des premières répartitions géoconfessionnelles. Je ne peux pas éviter, évidemment, de parler de la grande mission militaro-culturelle de 1860-1861, qui était dirigée par Ernest Renan. Et il avait sorti un bouquin, La mission de Phénicie, qui lui a permis de dire « L'archéologie phénicienne est pauvre dans un état pitoyable, mais elle existe. Dans les objets et les monuments, sans contredit antérieur de l'influence grecque, et on arrive à tracer un vrai caractère de l'art phénicien. C'est à partir de ce moment-là qu'on a pu commencer à comprendre en Europe la différence qu'il y avait entre les peuplements arabes qui sont venus plus tard à partir de l'islamisation et la Phénicie antique. » Évidemment, à la même date, comment ne pas citer Abdelkader qui secourait les chrétiens à Damas, symbole important de nos jours, puisqu'en juillet 1860, la France commanditait avec un corps expéditionnaire de 10 000 personnes, dont 5 000 Français, est venu de défendre les chrétiens dans le mont Liban. Tout empire a une chute, puisqu'un empire, ce n'est pas autre chose qu'une des conquêtes, et les conquêtes s'arrêtent un jour. Eh bien, la chute de l'Empire s'est faite progressivement à partir de 1830, avec Alger qui a été après dirigé par la France, la Tunisie, la Libye, vous voyez les dates, l'Égypte. Et progressivement, il y a eu une rétraction de cet empire ottoman. Et c'est là qu'on peut comprendre ce qui va se passer ensuite, pour comprendre le mandat français de 1914, avec la guerre mondiale, qui est la première guerre qui va arriver. Toutes les alliances en Europe vont s'effondrer, créer cette guerre et vont effondrer l'Europe. 1916, vous voyez que je viens de vous parler de 1914, ce sont les fameux accords secrets anglo-français entre Saïd Picot, Picot c'était Georges Picot, François-Georges Picot, dont c'est la famille de Giscard d'Estaing, et Sir Marc Sykes. Permettez-moi une petite digression pour la médecine. Son corps a été exhumé quand il y a eu la grande grippe H1N1, parce qu'il était mort en 1918, on pensait que c'était cette grippe. Et comme il avait été inhumé dans un cercueil en plomb, on avait pu penser retrouver la souche. Malheureusement, la terre avait fait son œuvre et le cercueil était effondré, on n'a pas pu retrouver. À partir de cet accord secret, des accords ont été faits à la Société des Nations à Genève et la France fut mandatée pour administrer les régions syriennes au Levant. Nous sommes en 1920. C'est Henri Gouraud qui était haut commissaire et qui, le 1er septembre 1920, va proclamer l'État du Grand Liban et fixer ses premières frontières que nous connaissons, après l'accord donc anglo-français secret au départ. Et voici les deux mandats. Le mandat britannique avec la Mésopotamie et le mandat de Palestine, avec, souvenez-vous, la fameuse déclaration Balfour, qui a permis après de créer l'État, après 1946-48, d'Israël. Et voici les États d'Alep, de Damas, l'État des Druzes, le territoire des Alaouites et le Grand Liban, dont on vient de parler, dont on parle toujours, et le Sandjak d'Alexandrette, à côté de la Turquie. Voilà quel était le mandat français pour cette partie-là, à côté des deux mandats britanniques. L'introduction de la langue française est faite au XIXe siècle, on l'a vu avec cette fameuse mission Renan également, avec l'introduction des congrégations religieuses. La constitution de 1926 de votre pays a nommé comme langue officielle à cette époque l'arabe et le français. La constitution du Liban du 9 septembre 1943, dans son article 11, écrira « L'arabe est la langue naturelle officielle, une loi spéciale déterminera le cas où il sera fait usage de la langue française. » Maintenant, vous l'avez rappelé, monsieur le directeur régional, on en est au trilinguisme. C'est une diversité culturelle tout à fait remarquable parce que la diversité culturelle est comme pour nous, la diversité biologique, elle est utile, nécessaire. 26 mai 1926, Henri de Jouvenel des Ursins, haut commissaire, il va créer à ce moment-là les postes de président de la République et de chef de gouvernement. Et l'État du Grand Liban devient à ce moment-là officiellement la République libanaise. Henri Ponceau, du Quai d'Orsay, fut nommé au commissaire le 9 mai 1932. Il va suspendre la constitution libanaise, dissoudre la Chambre des députés, et Charles Debat deviendra président de la République. Le Quai d'Orsay a repris ses droits de gestion, si je peux dire, sur le côté politique français. Le 3 mai 1936, le Paris d'Estour va voter une motion à l'unanimité demandant un traité avec la France pour mettre fin au mandat et remettre en constitution la constitution qui avait été arrêtée par Ponceau, la remettre en vigueur. Et elle va demander l'admission du Liban à la Société des Nations. On est en 1936, c'est Léon Blum qui est au gouvernement en France, c'est le Front Populaire, c'est la gauche au pouvoir, et ce traité franco-libanais va reconnaître, devrait reconnaître, aurait dû reconnaître l'indépendance du pays, et cette indépendance a été approuvée par la Chambre libanaise le 17 novembre 1936. Mais l'armée française est derrière, avec Gamelin qui fut haut commissaire également, et Végan, ils ont fait voter non à la Chambre française, alors que, bien sûr, le vent avait tourné, puisque la gauche n'était plus au pouvoir ensuite. Et le 4 janvier 1937, il va y avoir un rétablissement donc de la Constitution par le haut commissaire. Et nous voici à la fin du mandat avec l'explosion de la Seconde Guerre mondiale. Le 8 mai 41, attaque des forces françaises libres qui sont attachées à De Gaulle et la 9e armée anglaise contre les forces vichysoises officielles puisque ce sont les autorités françaises ici qui étaient pétainistes de fait. Et le 12 juillet 41, armistice et départ des forces fidèles à Pétain. C'est alors qu'un représentant personnel de De Gaulle, le général Georges Catroux, va être nommé haut commissaire. Ces deux hommes s'étaient très bien connus parce qu'à Ingolstadt, après la Première Guerre mondiale, ils avaient été prisonniers ensemble, ils s'étaient bien connus à cette époque-là. Et donc il a nommé haut commissaire. Le 18 mars 1943, le général Catroux va nommer Ayoub Taïeb chef de l'État du gouvernement de la République libanaise. Le 21 juillet 1943, il va nommer Pedro Trade chef de l'État de la République libanaise. Et le 21 septembre 1943, Béchar El Khoury serait élu, cette fois-ci, et puis nommé président de la République par la Chambre des députés. L'indépendance est arrivée le 22 novembre 1943, et je pense que c'est toujours votre jour de la fête de l'indépendance, si je ne suis pas trompé. Et voilà, nous sommes maintenant dans le grand moment de la francophonie. La France a accordé, entre guillemets, où on a signé un accord ensemble pour la liberté, pour l'indépendance du Liban, et de façon tout à fait libre cette fois-ci, le Liban a adhéré à la francophonie, à l'OIF, à l'Organisation internationale de la francophonie, en 1973. Vous savez qu'Abdou Diouf a terminé son mandat, et c'est Madame Michaëlle Jean, qui est d'origine haïtienne et canadienne, ancienne gouverneure générale du Canada, qui est maintenant à la tête de cette organisation internationale. Et on ne peut pas terminer ce petit survol historique sur 3-4 000 ans sans parler de la déclaration de Beyrouth sur le dialogue des cultures qui a fait vraiment histoire, qui a fait date. C'était le 9e sommet de la francophonie, qui ne portait pas encore son nom, c'était le sommet des chefs d'État. Maintenant, on l'appelle le sommet, en octobre 2002. Et là, je vous ai mis la référence, on peut le retrouver. C'est un document exceptionnel où tout est décrit au plan sociétal, au plan économique, etc. Je pense que le fond culturel de ce que l'on peut penser comme étant le dialogue des cultures dans la francophonie est inscrit dans ce texte. Alors, les symboles sont toujours politiques et les hommes ont besoin de symboles. Voyez le drapeau du Mont Liban avec ce fameux cèdre millénaire, celui de la Bible, 1848-1920. L'état du Grand Liban, 1920-1943, eh bien, ce cèdre a été entouré par le drapeau tricolore, puisque vous avez le blanc qui représentait pour la France la royauté, la noblesse, et puis le rouge, la révolution, et le bleu, l'autre tendance du pays. Et maintenant, la République libanaise a trouvé son drapeau avec le cèdre entouré de bandes rouges. Eh bien, il est extraordinaire, effectivement, et remarquable que Madame la Présidente et Monsieur le Président du Conseil scientifique, vous ayez choisi ces symboles pour illustrer de façon remarquable, parce que c'est notre communauté de culture, ses couleurs et ses thèmes pour le thème de ce congrès. Je donne toujours la conclusion à Abdelkader, parce qu'elle est exceptionnelle, elle est de 1864. Il avait secouru les chrétiens au Liban, il a été nommé pour ce fait Grand Croix de la Légion d'honneur en France, en même titre que celui avec qui il allait signer la paix, mon cousin Bugeaud, du Périgord comme moi. Le culte du Seigneur est le même partout, n'ayant qu'une seule éternité, il ne peut y avoir qu'une seule divinité. La religion est unique, et le mot est grave si c'était à refaire, je ferai cesser ces divergences mesquines, et j'enseignerai comme Sinna Issa, notre Seigneur Jésus-Christ en arabe, que les hommes doivent s'aimer entre eux, il n'y aurait plus de chrétiens ni de musulmans, mais des peuples courbés sur la même crainte de Dieu. Choukran.